Sagesse du monde, bonsoir. Nous vous retrouvons ce soir, comme nous le faisons une fois par mois, pour parler de grandes traditions du monde, de grands enseignements de sagesse. On a évoqué les enseignements un peu plus occidentaux. Là, nous sommes dans une série d'émissions qui se tournent davantage vers l'Orient. Nous vous avons parlé des différents yogas. On vous a parlé de la dernière fois du bouddhisme. Et aujourd'hui, avec David Gaulois qui est devant moi,
Bonjour Olivier Danès.
bonsoir David, nous allons vous parler du taoïsme. Alors, le taoïsme, une religion déjà, David, ou une philosophie?
Alors c'est toujours l'éternelle question pour tout ce qui touche à l'Orient. Il y a, dit-on, un taoïsme plus philosophique et un taoïsme plus religieux, voire ésotérico-alchimique, hein. Mais le taoïsme philosophique, la grande référence, c'est Lao Tzu. Qui est contemporain du Bouddha, hein, c'est la même époque, et aussi d'ailleurs de Confucius, un autre grand
Il y a à peu près
sage,
2600 ans, donc.
voilà, vers l'an moins 500 avant Jésus-Christ, un petit peu plus. Et donc Lao Tzu est la figure de proue du taoïsme, avec Chuang Tzu et Li Tzu aussi. Tzu, c'est un petit peu l'instructeur, hein. Donc il y a le livre très connu de Lao Tzu, qui est un livre extrêmement traduit, qui est le Tao Te Ching. C'est le livre de la voix, le Tao, et le Te, c'est la vertu, c'est la morale en quelque sorte, au sens philosophique du terme, hein. Donc c'est un grand classique, extrêmement traduit dans diverses versions. Et les livres aussi de Chuang Tzu ou de Li Tzu, je pense au grand classique du vide parfait. Donc on va voir avec l'émission de la semaine de la fois dernière qu'il y a des liens avec le bouddhisme et de façon générale avec la pensée orientale. Donc c'est chinois, hein?
Voilà, c'est une grande tradition chinoise. Donc, Lao Tzu donc a vécu il y a 2600 ans en Chine, donc à la même époque que le Bouddha d'ailleurs, hein, qui était
Voilà.
lui en Inde, et à la même époque aussi, je crois, que Confucius.
Oui, donc ils se seraient rencontrés. Alors Confucius, lui, c'est une philosophie basé sur le Yi Qing, le livre des transformations. Les gens connaissent peut-être ces symboles avec une ligne pleine et une ligne, une demi-ligne ou un pointillé qui représente l'un le yang, l'autre le yin. Et il y a toute une sorte de cabale. On a parlé de cabale chinoise parfois, c'est pas faux pour le Yi Qing. Donc la philosophie de Confucius se base beaucoup là-dessus. Et lui a créé une philosophie très sociale. Alors que Lao Tzu, c'est très mystique. Philosophique, c'est il invite beaucoup au retrait. On va voir, enfin, en tout cas, dans sa partie philosophique, le taoïsme. Alors, c'est l'idée de retourner au Tao, c'est-à-dire à l'origine des choses, avant que la différenciation entre les deux grands principes se fasse.
Deux grands principes, alors lesquels?
Alors, ce sont le yin et le yang. Qui ne connaît pas ce symbole, hein, que l'on trouve partout, tu sais, Olivier, ce cercle divisé. Pas forcément pas en deux comme nous cartésiens on pourrait le considérer, mais ça forme une forme d'ellipse avec un côté où le blanc empiète sur le noir et l'autre côté où le noir empiète sur le blanc, et dans le blanc il y a cette partie noire et dans le noir il y a cette partie blanche, ce point blanc. Donc on voit que le yin et le yang sont intermêlés et que l'un ne peut exister sans l'autre. Donc c'est tout le jeu de ce qu'on appelle les paires d'opposés, hein. L'esprit, la matière, ça va donner le ciel, la terre, ça va donner les deux grands principes. Et au milieu, pense et taoïste, existe l'homme. L'homme est un mélange. Donc si on voulait faire une trinité, on dirait le yang, le ciel, ou les énergies célestes, celles qui ont trait à l'esprit. En dessous, la terre, les énergies qui ont trait à l'essence, à la substance qui va créer la matière. Et au milieu, il y a l'homme, qui est ce principe intermédiaire. Donc on retrouve, voilà, c'est les trois aspects du taoïsme, et philosophique comme aussi religieux. Et au fur et à mesure, il va y avoir une branche qui va développer un taoïsme spéculatif, méditatif, et un qui va de plus en plus s'orienter vers des pratiques, on va voir, de longévité et aussi d'alchimie spirituelle.
Donc, de Lao Tzu est née une grande philosophie, un courant philosophique, on peut
Alors, je dirais
dire.
pas qu'il est né, je pense qu'en fait, c'est des réformateurs. Curieusement, ils arrivent tous justement vers cette période, moins 500, moins 600. On va avoir donc Bouddha, Confucius, Zoroastre, enfin peut-être Patanjali.
Zoroastre lui. Hein.
Voilà, on a vraiment à ce moment-là, alors on dit que c'est parce que astrologiquement, on a commencé à inaugurer l'ère des poissons. Et donc, c'est une ère très religieuse, et c'est comme si les anciens courants étaient réformés ou remis au goût du jour, ou modernisés peut-être pour l'époque. Et je pense que le taoïsme, il semblerait, a des sources très très anciennes. Hein. C'est une sorte de... ça remonte jusqu'à une forme de culture chamanique très ancienne en Chine. Hein. Donc je pense que c'est très très ancien.
D'accord, donc sur un socle ancien, Lao Tzu a écrit donc des ouvrages.
Li Tzu, Chuang Tzu, et après d'autres qui se sont orientés plus vers un taoïsme, on va voir, de nature alchimique, hein, ésotérique.
Mmh. Et donc la grande doctrine du Tao, c'est donc le Tao, tu as dit, c'est la voie. Hein.
Voilà, c'est le chemin, mais c'est aussi l'absolu. En quelque sorte, on peut aussi considérer que c'est une sorte de source primordiale de tout, hein. Donc une énergie ou énergie conscience, yang et yin, en quelque sorte, sont mêlés. Donc c'est vraiment l'origine de tout. Et l'idée, c'est de retourner à ce tout en équilibrant le yin et le yang à travers leur manifestation sur Terre et aussi dans le cosmos, qu'on appelle les cinq éléments.
Hein? Cinq éléments.
Voilà. Les cinq éléments dérivent de ce principe yin et yang, à savoir qu'il y a un élément nettement yang, ça va être le feu, par exemple pour les Chinois, un élément nettement yin, ça va être l'eau, et deux éléments intermédiaires, si on voit la croix, hein, il y en a un qui va de l'eau vers le feu, c'est ce qu'ils appellent le bois, c'est l'énergie montante, et une énergie qui décline au contraire, de l'esprit vers la matière, ou du ciel vers la terre, c'est le métal. Et au centre, les Chinois mettent la terre. Donc les Chinois, contrairement aux Indiens, sont des gens qui ont un point de vue très pragmatique. Et c'est plus un système horizontal et circulaire de permutation qu'un système qu'on peut considérer comme abstrait, comme vertical. Et les Chinois, donc, on retrouve dans le taoïsme cette union avec le tout, à travers donc ces cinq éléments, hein, ces cinq énergies qui sont plus ou moins polarisées, en fait, en quelque sorte. Et ces cinq énergies, pour être donné un exemple pratique, c'est ce qui est quand même à la base de la médecine traditionnelle chinoise, en ce sens qu'on va leur associer un organe dans le corps, une partie du corps et un type d'esprit, un type de conscience. Pour le feu, on a le cœur. Pour les reins, pour l'eau, on va avoir les reins, ce qui est en fait logique, hein, l'eau, les reins filtrent l'eau du corps. Pour le bois, on va relier ça au foie, vésicule biliaire. Et pour le métal, ça va être les poumons, le rôle respiratoire, qui a les poumons ayant un rôle de rafraîchissement, d'où le lien avec le métal. Et au centre, c'est la terre, et c'est la rate qui joue une sorte de rôle de plateforme, de centre équilibrateur dans le corps. Et les Chinois, qui, je parlais de tradition chamanique, d'esprit, considèrent que chaque organe à son esprit propre, hein, son intelligence propre. Et le but, c'est de maîtriser ces énergies en soi, ces esprits-là. Le foie va engendrer un esprit qu'ils appellent le Hun, qui est associé à tout ce qui est imaginaire, à tout ce qui est rêve, mais aussi à l'énergie de la colère, par exemple. Donc il y a des émotions, il y a des états, des sortes de plans de conscience qui sont liés à cela. Et il y a au-dessus de ça le palais suprême, le cerveau en fait, le centre qui est censé coordonner, équilibrer, c'est une sorte de sixième aspect, hein, on peut dire, qui a pour but d'équilibrer ces différentes humeurs, énergies en soi.
Et en matière de doctrine, alors est-ce que dans le Tao, il y a aussi des choses qui expliquent l'âme individuelle, le soi, enfin des notions dont on a parlé au cours des émissions précédentes.
Oui, alors c'est en fait, on pourrait dire, c'est différents types d'âmes. Chaque organe a son type d'âme. Par exemple, dans les reins, il y a l'âme qui a beaucoup à voir avec le corps proprement dit, hein, avec la matière, c'est les reins. Les Chinois pensent que tout ce qui a trait aux ancêtres et même au patrimoine génétique est relié aux reins. Alors quand on dit rein, c'est plus qu'un organe, en fait c'est un système de méridiens, c'est-à-dire c'est une alimentation générale d'énergie qui touche les reins mais aussi d'autres systèmes dans le corps qui sont reliés aux reins. Et on relie au rein beaucoup la fonction sexuelle, les os, les moelles, enfin quelque chose qui est beaucoup relié à ce que les Chinois appellent l'essence. Voilà, il y a trois aspects dans l'homme. L'essence, ça s'appelle le mot jing, donc qui est pour les Chinois logé dans le sperme, ou en tout cas de façon générale l'énergie sexuelle, donc le patrimoine génétique ancien, l'énergie ancestrale. Il y en a aussi dans la nourriture qu'on pourrait capter. C'est donc dans les moelles, dans les moelles des os, comme dans la moelle du cerveau, dans les organes reproducteurs. Donc là, voilà, ça c'est lié à la constitution de l'homme. Et il y a l'esprit, c'est la volonté de vivre qu'on va associer à ça. Donc oui, c'est une âme presque végétative, physique, on pourrait dire matérielle.
Donc, il y a la notion de réincarnation aussi.
Alors, il semblerait, oui, que dans le. Alors, certains disent que ça a été apporté par le bouddhisme. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'Orient. Il y a aussi. Ça a été popularisé par la suite. On ne sait pas vraiment, en lisant proprement dit Lao Tzu, s'il y a ce processus-là. En tout cas, s'il existe, c'est comme le bouddhisme. Le but, c'est en tout cas de s'en libérer, que ça appartient à tout ce qui nous enchaîne en fait, aux éléments, à la matière. Et le but, c'est de retourner au Tao par ce que les Chinois appellent le wu-wei. C'est le non-agir, le non-être, qui est un état de détachement absolu, hein. Donc oui, il y a des formes d'âme. On parlait du foie. Ça, c'est une âme presque émotionnelle, astrale, on dirait. Donc je parlais des rêves. Après mort, on dit que cette âme erre un petit moment. Il y a l'âme qui est liée à la rate, qui est plus intellectuelle, rationnelle, qui mémorise. Il y a l'âme qui est liée au poumon, qui est le souffle, même le souffle des esprits, enfin de l'esprit suprême. Et puis il y a le cœur qui est relié à la joie pour les Chinois et qui est une sorte d'âme spirituelle. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on monte dans le corps, en quelque sorte, on monte vers le domaine, on quitte le domaine de la terre et on monte vers le domaine des esprits, hein. Et au milieu du corps, les Chinois pensent que c'est qu'une autre énergie est présente, ce qu'ils appellent le chi, qu'on retrouve beaucoup dans Tai Chi, hein, Tai Chi, Qi Gong, c'est l'énergie vitale qui se mêle à ce qu'on appelle dans certaines médecines, hein, l'autre énergie, les essences, ou alors le flegme. Dans la médecine tibétaine, ça s'appelle le flegme par exemple. C'est l'énergie substantielle qu'on pourrait appeler énergie kundalinique aussi, hein, dans les traditions tantriques. Alors que l'autre, le chi, correspond au prana, à la vitalité, à ce qu'on absorbe dans l'air, dans les aliments, et ce qui est aussi donné à la naissance, c'est notre vitalité. C'est pas ce qui construit les tissus, comme notre énergie, mais c'est ce qui va dynamiser tout cela. Et le rôle important, c'est les poumons et aussi le cœur, hein. Les poumons qui absorbent ce chi, cette énergie, et après tout ceci circule dans le sang. Et la troisième énergie, c'est ce que les Chinois appellent le shen. C'est la conscience ou tous les états de conscience rattachés au cerveau et qui et le but en fait, on verra plus peut-être vers la fin de l'émission, c'est de transmuter les essences en énergie vitale, énergie vitale en pur esprit. Donc oui, il y a quand même dans le taoïsme une notion d'ascension, d'élévation, mais qui passe par un respect de l'être, une grande harmonie entre l'être, sa nature à lui, la nature de façon générale. C'est très présent dans l'esprit taoïste, puis dans l'esprit chinois de façon générale en tout cas.
Oui, alors donc peut-être pourrions-nous faire une sorte de digression là pour le public français, peut-être qui ne connaît pas trop la Chine, expliquer un peu la place du Tao, la place de Confucius, la place du bouddhisme, peut-être un peu dans l'histoire, mais surtout aujourd'hui peut-être aussi.
Alors, le taoïsme, en dehors des communautés chinoises, c'est pas une religion ni une philosophie qui s'est vraiment exportée, en tout cas comme religion proprement dite. Donc, elle est restée essentiellement chinoise, on peut dire, hein. Donc, sa source est en Chine. Bon, après, les communautés chinoises peuvent l'avoir développée. C'est vrai qu'après la révolution culturelle, toutes ces doctrines ont pris un coup quand même, hein. Mao, je sais, aimait les accepter peut-être l'aspect santé, mais après, quand on allait plus loin, c'était une forme de superstition, donc un retour en arrière. Donc c'est vrai que toutes ces religions ont vécu une sorte d'état dans un monde communiste, hein, une sorte de passage à vide. Et là, c'est le taoïsme, bah, c'est revenu surtout à travers, en Occident, les pratiques d'ordre énergétique, alors les qigong. Donc ça, c'est toutes les pratiques qi énergétique, kong, c'est le travail, hein, c'est toutes les pratiques destinées à maîtriser l'énergie.
L'acupuncture, ça en fait partie aussi ou...
Alors l'acupuncture fait partie, à des bases taoïstes, c'est l'idée de recréer l'équilibre du chi dans le corps, de l'énergie, en piquant certaines zones du corps.
D'accord, peut-être on verra ça un peu plus peut-être, tard, David. Alors... Oui, peut-être rester au niveau général.
Donc pour répondre à ta question, oui, le taoïsme donc, est d'origine probablement ancienne. Et le bouddhisme, en fait, en arrivant en Chine, c'est pas mal marié au taoïsme. On a vu une sorte de bouddhisme taoïste, un petit peu. Surtout ce qui a trait à l'illumination, à l'alchimie interne. Il y a eu un mélange, surtout dans ce qu'on appelle le Chan, le bouddhisme méditatif, qui a beaucoup trouvé de compléments dans le taoïsme, avec toutes les connaissances sur le corps énergétique de l'homme, sur les étapes de la transmutation. Bon, bah, qu'on atteigne l'état de Bouddha ou le Tao, ma foi, c'est pas forcément si différent. Bien qu'il y ait dans le taoïsme une recherche de longévité qui n'existe pas dans le bouddhisme. Alors que dans le bouddhisme, on a pu utiliser des pratiques taoïstes pour que le moine, par exemple, puisse vivre mieux, plus longtemps, pour pratiquer, donc atteindre l'éveil. Alors que dans le taoïsme, il y a l'idée de se créer un corps immortel. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on...
Alors, et donc la place du confucianisme alors en Chine,
c'est différent, c'est plus social, et il semblerait que ça, c'est presque plus cela qui continue d'influencer beaucoup la pensée chinoise. C'est les normes sociales, c'est le respect des ancêtres, encore une fois l'harmonie entre l'homme et l'univers, mais aussi la société. Dans le confucianisme, il y a une morale humaniste, on pourrait dire. C'est une approche plus intellectuelle. Mais là aussi, il y a eu des liens entre. Hein. Mais c'est vrai que Confucius continue de marquer énormément, peut-être plus que Lao Tzu, l'esprit chinois, même si les Chinois développent, on peut voir en ce moment une forme de néo-capitalisme. Il y a quand même des normes, des repères en Chine, je pense, qui resteront, surtout le sens du groupe naturel. Hein.
Oui, alors est-ce que ces courants philosophiques, donc au départ, hein, de... Lao Tzu, Confucius et le bouddhisme, est-ce que ça a tourné en religion par la suite?
Alors il y a eu une branche religieuse proprement dite taoïste.
Donc avec des rituels, des voilà, pratiques, des prêtres des pratiques, ou...
Oui, c'est, tout à fait, il y a des prêtres, il y a quelque chose d'assez extérieur, hein, ritualiste, oui, ça existe aussi. Et puis il y a toute la branche... qui se dirige vers tout ce qui est martial ou alors pratique énergétique, et une autre branche qui se mêle ou pas au bouddhisme et qui est beaucoup plus mystique et qui touche aux ermites, à la retraite. Et en Chine, par exemple, c'est très très courant. On sait dans les montagnes de Kunlun ou alors ailleurs, on sait qu'il y a des ermites. Les Chinois pensent que certains ont même atteint des âges très avancés. Il y a un proverbe, il y a une expression taoïste qui dit mourir à 120 ans, c'est jeune. Donc il y a, semble-t-il, des moines qui, par différentes pratiques, auraient réussi, si ce n'est à atteindre l'immortalité, mais en tout cas à atteindre une très grande longévité même du corps. Donc c'est un peu les experts, en quelque sorte, ils ont vraiment tout recherché dans ce domaine pour atteindre. Pour eux, l'immortalité est un gage de l'immortalité de l'esprit, hein. Celle du corps est intimement liée à celle de l'esprit.
Donc on dit, et au niveau du confucianisme aussi, c'est devenu une religion avec des pratiques, des...
Je crois que c'est plutôt resté d'ordre philosophique. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de religion. Ça a dû beaucoup intéresser. Je ne sais plus maintenant vraiment, vu que c'est tellement rentré dans les normes, mais je ne pense pas qu'on parlerait de religion. Il y a peut-être des pratiques de dévotion faites envers Confucius, mais c'est plus resté une morale sociale, philosophique, humaniste.
D'accord. Bon, bah, écoute, David, je te propose une première pause. On va se retrouver tout à l'heure et bah, j'espère que tu vas nous parler davantage de ces méthodes taoïstes de longévité ou autres. Sagesse du monde, on se retrouve en deuxième partie de cette émission avec David Goulois qui nous parle aujourd'hui du taoïsme Et nous avons parlé de Lao Tzu et tu as nommé quelques autres personnes qui sont à l'origine de ce grand courant philosophique et religieux. Tu nous as parlé des grandes doctrines, donc le Tao, la notion de yin et de yang, et puis des cinq éléments. Et maintenant, j'aimerais bien, David, que tu nous parles un peu des méthodes que proposent les taoïstes. Et tu as évoqué tout à l'heure la longévité. Alors, parle-nous un petit peu peut-être davantage de cette recherche de longévité.
Donc on a dit que c'était un thème récurrent dans le taoïsme qui n'est pas bouddhiste hein, et qui est proprement dit taoïste. Hein. C'est-à-dire que le pur taoïste qui n'est pas bouddhiste peut et recherche l'immortalité du corps qui est une forme de corps spirituel qu'il va créer à l'intérieur de lui. Et en tout cas s'il n'y arrive pas, l'idée est de pouvoir prolonger au maximum la vie, donc ce qui n'est pas du tout un concept bouddhiste, hein. On peut le concevoir facilement. D'arriver à pouvoir maintenir le corps et de maintenir les souffles, les différentes formes d'énergie en soi. Alors les méthodes premières, bah, c'est surtout l'alimentation. Pour les Chinois, c'est très important. Donc il y a une alimentation, il y a une diététique liée toujours à la théorie des cinq éléments. Alors il y a toute une théorie qui est utilisée dans l'alimentation, dans la médecine, enfin dans tous les arts et taoïste, c'est l'idée que les éléments s'enchaînent entre eux. Hein, j'ai parlé par exemple des reins, de l'eau. L'eau engendre le bois engendre le feu, la terre, le métal, puis le métal, l'eau, voilà. Ils s'engendrent naturellement. Donc, par exemple, quand on mange, il y a des aliments, les aliments sont classés selon les éléments. Donc, une déficience en tel élément, on va prendre tel aliment qui est relié. Mais après, il y a aussi des aliments qui atteignent, qui réduisent, hein, qui s'opposent en quelque sorte à d'autres aliments si un aliment est en excès. Donc là aussi, alors il y a tout un langage philosophique. Le feu, on sait que le feu éteint l'eau, mais le feu fait aussi brûler le métal. Le métal coupe le bois. Enfin, vous voyez, il y a en fait tout un jeu d'images qui permet de comprendre cette loi de destruction. C'est-à-dire d'annihilation, ou en tout cas de contrôle d'un élément par un autre. C'est la deuxième loi qui est liée à ces cinq éléments. Donc la diététique va être faite avec. Le médecin chinois, à la base, en fait, il intègre toutes sortes d'arts. Il y a la diététique, il y a tout ce qui touche à l'acupuncture, donc le fait de piquer le patient, mais aussi les moxas, hein, des sortes de choses que.
C'est l'acupuncture sans aiguille, ça.
Voilà,
Oui.
avec donc des sortes de petits encens, enfin qu'on fait brûler à certains endroits du corps. Il y a les massages qui agissent aussi sur les points, fameux points d'acupuncture dont on va parler. Et après, il y a des pratiques gymniques qui sont plus énergétiques que musculaires proprement dites. C'est la grande famille des Qigong. Je dis grande famille parce qu'il y a là encore énormément de types de Qigong. Et puis donc qui inclut des pratiques respiratoires aussi, d'étirement. Et puis après, on a vraiment les pratiques beaucoup plus internes dont on parlera en fin d'émission.
Donc les Chinois qu'on voit aux actualités en train de faire nous on dit gymnastique en Occident, mais je sais bien que ce n'est pas de la gymnastique, le matin,
La gymnastique douce, ouais.
ce sont des taoïstes alors.
Plus ou moins, en tout cas, c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif chinois. Que en fait ça fait partie de la culture je pense pas qu'il soit forcément taoïste par exemple quoique certains sont peut-être plus poussés dans la philosophie taoïste mais en tout cas c'est des choses connues les cinq éléments le chi tout ça
C'est devenu une pratique journalière courante pour
oui
eux de faire attention à leur alimentation,
voilà tout à
notamment.
fait alors donc l'alimentation c'est central et beaucoup ce qui va être beaucoup lié à ça va être donc la régulation des énergies donc là on rentre dans tout ce qui est moxibustion et acupuncture, hein. Donc les moxas et les aiguilles, on pique à certains endroits pour rétablir les courants d'énergie. Alors,
La vision de l'homme avec les courants d'énergie, donc les méridiens, on appelle
oui.
les chakras, etc. Ça c'est une.
Alors les chakras, non. Les Chinois ne parlent pas de chakras, donc ça c'est un terme en plus sanskrit, donc spire, roue, mais ils vont parler de ce qu'ils appellent les dantian, c'est-à-dire des chaudrons internes. Le corps est beaucoup vu dans une symbolique alchimique, beaucoup. Et en fait, il y a des grands foyers d'énergie, il y en a trois fondamentaux. Un dans le ventre, sous le nombril, le fameux centre qu'on appelle Hara, en japonais, c'est le centre de gravité du corps, dit-on, et c'est le centre où on mélange les énergies ancestrales, hein, les essences, on va appeler ça, avec l'énergie vitale proprement dit, hein, le chi. Ça se mélange ici. Il y a un autre chaudron important, c'est dans la poitrine, où là, c'est essentiellement beaucoup d'énergie du chi, donc respiratoire, vitale, qu'on accumule. Donc, c'est lié au sang et aux poumons. Et puis après, le troisième centre, c'est dans la tête, qui est plus le palais de la conscience, hein, le centre de la conscience. Mais il y a d'autres centres, en fait, intermédiaires. Donc, on retrouve, même s'il n'y a pas les mots, ces différents chakras, qui sont des étapes sur deux grands méridiens, un qui couvre tout le devant du corps et un qui couvre tout l'arrière. On en parlera tout à l'heure dans tout ce qui est pratique alchimique. Mais oui, il y a quand même des stations d'énergie dans le corps. Et ça, c'est les grands foyers de distribution d'énergie. Et relié à ça, il y a dans ce corps, donc faut dire, c'est un corps, on va dire, virtuel, pour certains hypothétiques, mais pour un vrai taoïste qui existe réel, c'est un corps énergétique, qui est composé de courants d'énergie à travers des sortes de gaines subtiles qui sont appelées donc méridiens par nous. Et donc il y a des trajets principaux comme des artères principales d'énergie. Et on les pique à certains endroits. Il y en a 12 qui correspondent aux 12 organes. Il y en a 24 parce qu'ils sont polarisés, il y en a à droite comme à gauche. Et ils sont très connus en médecine chinoise. Ils sont reliés aux 5 éléments. Et donc voilà, on travaille, on pique, alors après il y a toute une science là-dedans où on stocke l'énergie, on la fait dériver, on la tonifie, etc. Donc selon l'emplacement et puis le mode de piqûre. Donc on sait, on a les exemples des gens anesthésiés.
Oui, on a vu ça, des gens se faire anesthésier sans anesthésiant, sans produit chimique en tout cas, juste avec des aiguilles.
Voilà. Ouais. Alors dans la médecine occidentale, on considère que on pique des trajets nerveux, mais pour un taoïste, c'est plus que le nerf, on touche au courant d'énergie. Pour eux, le méridien gaine les nerfs en fait, hein, c'est le substrat subtil des nerfs. Donc oui, ça joue sur les nerfs, mais pas seulement, hein, ça joue vraiment sur ce corps énergétique. Donc ça, c'est l'autre grande famille, et puis après, il y a aussi la famille des Qigong, voilà, très connue, très populaire. On a des Qigong statiques, d'autres qui sont où il y a un petit peu de... Donc je pense à la posture de l'arbre, par exemple, à une posture d'enracinement, sans bouger, ou du moins avec des micro-mouvements. Il y a des pratiques plus d'étirement, et puis après, carrément des déplacements. Il y a énormément de familles de Qigong, et ils sont liés de près aux arts martiaux. Aux arts martiaux, alors on pense au kung-fu, mais ce qui est un art martial qu'on dit externe. On utilise essentiellement, en tout cas beaucoup, le muscle, hein, la force musculaire. Mais il y a des arts martiaux qui utilisent cette fameuse énergie, qui tentent de la développer. On pense au tai chi, il y a le yichuan, ou le ting yichuan, plus anciennement. Il y a le pakua chuan, qui sont des arts martiaux classés dans les styles internes, donc purement énergétiques, qui développe une très grande efficacité. Le pratiquant est censé développer cette force et pouvoir l'extérioriser. Donc c'est au-delà même du corps. Hein. Et puis il y a une autre famille qui commence à toucher à tout ce qui est alchimie, c'est ce que les Chinois appellent le kung-fu sexuel. Alors kung-fu, ça veut dire, c'est pas seulement les arts martiaux wushu, kung-fu c'est un travail pleinement accompli, maîtrisé. Donc selon eux, les relations sexuelles sont aussi un moyen d'échanger beaucoup d'énergie, bien sûr par les organes sexuels et puis par le corps de façon générale. Il y a des pratiques pour l'homme comme pour la femme pour éviter de perdre les essences. Les sécrétions sexuelles de part et d'autre, et surtout de faire remonter cette fameuse énergie. Et ça, c'est un travail qui commence déjà à toucher à tout ce qui est transmutation, alchimie interne. Pour l'homme, c'est essentiellement des pratiques de rétention du sperme, mais aussi pour la femme, des pratiques de rétention de son énergie et d'élévation. L'idée, c'est d'élever toujours cette essence et de la volatiliser en quelque sorte, de la transmutation, de la transmuter en énergie pure et de là en esprit, en énergie de conscience. Il y a toujours ces trois étapes, hein, le ventre, la poitrine, la tête. Donc voilà, donc ça c'est très populaire en Chine.
Donc tout ça pour atteindre la longévité, alors tout ça, l'immortalité.
Tout ça est censé vraiment maintenir le corps. Il y a aussi une sorte de doctrine psychologique dans laquelle, et ça on touche au, plus au taoïsme philosophique, où on essaye d'être dans une position, on a parlé du wu-wei, cette position impartiale. C'est-à-dire on ne cultive pas les émotions. Parce que dans chaque émotion, qui est reliée aussi aux différents organes des sens, chaque émotion est reliée à un des organes des sens, on perd de l'énergie. Par exemple, quand on a peur, hein, on sait très bien qu'on
Perdre ses
peut, voilà,
moyens.
même uriner, qu'on peut complètement perdre, comme tu dis, complètement ses moyens, que les hormones déclenchent de l'énergie, enfin, les glandes des hormones dans le sang, etc. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on perd de l'énergie, et donc il y a l'idée de fermer les portes, les fenêtres. Donc, les sens, les cinq sens et les émotions qui sont reliées aussi aux cinq sens. Donc, ça, c'est une méthode plus psychologique. Pour l'idée d'arriver au centre dans l'état du non-agir, de la non-pensée, de la non-émotion et même de la non-sensation. Et là, on cultive vraiment son énergie vitale, on la recentre, et tout ça permet d'élaborer ce fameux corps mystérieux, ce corps spirituel que les taoïstes recherchent.
Mais David, la notion d'élimination, alors c'est lié à ce dont tu viens de parler ou...
L'élimination, tu fais allusion à quoi, proprement dit? L'idée, c'est que il y a une forme d'économie dans le taoïsme. Hein. On recherche à garder au maximum. Si on élimine, c'est des énergies perverses ou alors usagées qui n'ont plus lieu d'être. Mais par exemple, la pure énergie, on évite de la perdre. Donc, on parlait du sperme, mais ça peut être aussi valable aussi pour la salive, qui est censée être une énergie. Lié à des liquides sacrés dans le corps, on évite de pleurer parce que on va éviter d'avoir des émotions pour perdre de l'énergie dans les nerfs et puis dans le système glandulaire. Donc partout, on va vraiment retenir et emmagasiner cette force qui serait responsable de la longévité, semble-t-il. Il y a des cas hein, qu'on cite en Chine de gens qui auraient vraiment vécu très très vieux, hein. Et sans parler des immortels. Ce qui est l'aboutissement de la philosophie taoïste, c'est-à-dire qu'on peut, après, par ce corps de lumière, en quelque sorte, devenir un immortel. Donc, il y a des très beaux tableaux où on voit des immortels qui chevauchent des oiseaux, des oies ou des cygnes ou des animaux comme ça célestes.
Donc ça, c'est le but hein, qu'on cherche à
Voilà.
atteindre. D'autres cherchent à atteindre le paradis ou le nirvana, eux cherchent cette sorte d'immortalité.
Qui passe donc curieusement par ce corps énergétique. On voit l'aspect très pratique. Ça, c'est très ancien, c'est valable dans le tantrisme, c'est valable dans des vieilles traditions en Orient. Cette connaissance du corps énergétique qui peut devenir un pur corps de lumière. Hein.
Et quand tu décris un peu toutes ces attitudes, on pourrait dire, hein, du taoïste, on reconnaît assez bien l'attitude générale du chinois, hein, face à la vie, qui n'exprime pas ses émotions, qui ça fasse un peu des lieux communs, mais ça a forcément une répercussion importante sur l'ensemble de la société.
Oui, et puis il y a aussi cet amour de la nature, il y a l'idée que, il y a des lieux aussi sacrés qui vont être beaucoup plus porteurs, de ce chi et d'une pureté du chi. Il y a aussi une pureté dans cette énergie, hein. Et les montagnes sont censées être des lieux d'élévation spirituelle. Donc on peut puiser largement l'énergie dans l'environnement et l'idée c'est de moins en moins se nourrir et aussi d'aller puiser que le souffle remplace en fait les produits qui vont apporter une forme de densité dans le corps et qu'il faudra éliminer. Donc il y a toute une théorie hein, autour de la subtilisation, hein, de rendre les choses de plus en plus éthérées, subtiles, énergétiques, pour après aller dans le monde de l'esprit.
Ok, ben je crois qu'il est temps de faire une deuxième pause, David. On va continuer tout à l'heure avec les pratiques d'alchimie interne, hein. Tu vas nous parler de méditation. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Sagesse du monde, nous nous retrouvons pour cette troisième partie de l'émission sur le taoïsme avec David Goulois. David, tu nous as parlé de Lao Tzu. Tu nous as parlé du Tao, du yin-yang, tu nous as parlé des cinq éléments, tu nous as parlé des méthodes taoïstes pour atteindre à la longévité, voire à l'immortalité, lorsque le chemin est et lorsqu'on est au bout du chemin. Donc tu nous as parlé d'acupuncture, de diététique, hein, tu nous as parlé d'arts martiaux, de qigong, et puis aussi de méthodes plus sexuelles, tout ça donc pour atteindre cette immortalité. Et puis maintenant, on voudrait aborder un autre volet qui est celui des pratiques alchimie, d'alchimie interne.
Voilà, il y a une longue tradition en Chine d'alchimie externe, donc vraiment d'alchimie comme nous on la connaît, hein, avec les métaux. Il y a même toute une symbolique avec les champs de cinabre. Hein, mais il y a l'idée que le corps lui-même est le creuset, le champ de cinabre, d'une alchimie qui peut se vivre à l'intérieur avec ses différentes énergies, symbolisées donc par ces cinq éléments. Hein. Donc il y a ces fameux grandes stations, on a parlé, hein, qui sont des dantian, donc des sortes de chaudrons alchimiques. Il y en a un dans le ventre qui emmagasine beaucoup les énergies, les essences, le jing, selon les Chinois. L'idée, c'est de le faire monter et de l'unir avec le qi qui est partout dans le corps, mais qui est en grande partie stocké dans le deuxième champ de cinabre, le deuxième étage, le centre d'énergie de la poitrine. Et l'idée, c'est d'unir ces deux-là après dans le centre de la conscience, proprement dit, qui est dans le cerveau. Alors pour cela,
Donc quand tu parles de cerveau, c'est pas le cerveau physique, hein, c'est au niveau énergétique plutôt
je
que ça se
parle de
passe.
la. C'est dans la géographie du cerveau, mais oui, c'est une sorte de centre énergétique intérieur, hein, à l'intérieur du corps énergétique, au niveau de la tête. Alors là, on rentre dans la méditation taoïste, et c'est là où il y a eu beaucoup de rapprochements avec la méditation bouddhiste, hein, où les bouddhistes ont en quelque sorte amené à cette méditation taoïste une valeur morale et ont beaucoup plus accentué sur justement tout ce qui est lié au domaine de l'esprit, de la conscience, en invitant les taoïstes à mettre peut-être un peu moins d'énergie vers la recherche de l'immortalité du corps. Et à plus développer l'aspect moral, en quelque sorte, et puis l'aspect, en tout cas, spirituel en termes d'esprit. Hein. En tout cas, et aussi, donc, on disait, les taoïstes ont beaucoup apporté de techniques pour améliorer certaines méditations d'alchimie interne. Mais en tout cas, dans la méditation taoïste proprement dite, il y a l'idée que le corps est parcouru donc par deux grands canaux d'énergie. Un qui parcourt tout le devant du corps. On peut le faire partir du front, il passe sur tout le devant du visage, le milieu de la poitrine, le ventre, jusqu'au périnée. Ça, c'est un courant qui est yin, féminin, on pourrait dire involutif, descendant, etc. De matérialisation. Et un autre courant plus de spiritualisation qui parcourt l'arrière du corps, qui part du périnée, qui remonte tout le long de la colonne vertébrale et qui arrive sur le sommet de la tête et qui rejoint, le front. Et on communique. En fait, ces deux courants, quand je dis le front, l'autre commence en fait plus au niveau de la bouche, et on les réunit en collant la langue. Quand la langue colle le palais, il y a une communication entre ces deux courants-là. Alors c'est vrai que par des pratiques, on peut sentir ce courant-là. L'idée, c'est qu'il y a des stations d'énergie qui correspondent à des points d'acupuncture, et qu'au fur et à mesure, toutes les énergies vont rentrer dans cette circulation. C'est la petite circulation, parce que dans la grande circulation, on joint aussi. Il y a des courants dérivatifs qui rejoignent les bras et les jambes, qui passent par le milieu, le devant et l'arrière des bras et des jambes. Mais donc l'idée c'est que toutes les énergies, alors énergie on va dire au sens large là, hein, donc les essences, la vitalité et l'énergie de l'esprit vont vraiment fusionner et ils vont être alchimisés dans ce courant. Alors il y a plein de planches très connues où on voit des sages. Assis, et il y a 12 grandes stations, et après il y a toute une symbolique initiatique en lien avec les hexagrammes aussi, les fameux symboles du Yi Qing, toute une alchimie et donc des étapes symboliques autour de cette orbite. Et en fait, cette orbite circulerait naturellement chez nous, mais il perdrait énormément d'énergie, et l'idée c'est qu'on crée une sorte de boucle interne. Et qu'on commence à accumuler cette énergie et à construire ce qu'on trouve dans les textes, cette idée d'un enfant-son, d'un embryon. Alors c'est toute une image symbolique, mais en fait je pense que ça représente le corps énergétique, le corps spirituel que l'on fait grandir, qui part de l'intérieur du ventre et qui au fur et à mesure va vraiment grandir, se développer. Et l'idée c'est que ce corps énergétique prenne l'ascendant sur le corps matériel. Et au fur et à mesure, ce corps est censé ralentir les processus de vieillissement, donc de mort, contrôler aussi les émotions, l'esprit. En fait, il commence vraiment à être un corps de lumière, hein. On appelle ça aussi la fleur d'or ou la fleur dorée. Il y a des traités alchimiques sur la fleur dorée. Et donc, en tout cas, aux différents étages du corps, il y a ces fameux cinq éléments. Il faut maîtriser la peur dans les reins et tout ce qui est lié à l'instinct de conservation, en quelque sorte. Les émotions de colère dans le foie, le souci qu'on associe beaucoup à la rate, la tristesse dans les poumons, l'excitation, la joie, mais comme une excitation dans le cœur, et le centre le plus noble, donc le cerveau, qui est censé, au fur et à mesure, contrôler ces états psychiques. Et aussi ces états mentaux, il y a des capacités mentales aussi, on a parlé d'émotions, qui sont liées à certains organes, hein, la réflexion, la stratégie pour l'un, la volonté pour l'autre, etc. Mais en tout cas, le but, c'est de contrôler ces énergies-là, qui sont des énergies psychiques, qui dépensent la vitalité et en même temps les essences. Il y a vraiment l'idée que ces essences, c'est un réservoir, et que si on gaspille ce patrimoine, ben on meurt. Il y a une idée intéressante chez les Chinois, qui est que vous venez avec un mandat. Ils appellent ça un mandat céleste. Comme si vous aviez un capital d'énergie qui est donné par vos parents, par l'hérédité, et qu'on peut plus ou moins améliorer ce capital avec une vie, avec une hygiène de vie. Hein, on a parlé de diététique et de toutes les autres méthodes, mais il y a quand même ce capital qui se réduit au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qui est relié aux essences. Les Chinois donnent l'exemple des personnes âgées qui perdent leurs essences au fur et à mesure. Donc la vie sexuelle, l'excitation. On a dit, hein, toute forme d'excitation nerveuse, émotionnelle, fait perdre aussi ces essences-là. Et on a l'exemple avec l'ostéoporose, le fait que les moelles s'affaiblissent. Pour les Chinois, c'est la réserve des essences du corps, hein. Et aussi la baisse de la libido. Tous ces signes-là qui sont liés à... Et donc aussi des problèmes au niveau de dégénérescence nerveuse, hein. Je parlais de la moelle des os, qui a un lien important avec le sang, la moelle du cerveau, avec le système nerveux, et donc aussi les essences sexuelles, la capacité de se reproduire, et puis même la libido, qui est l'énergie de vie. On retrouve un peu la notion de kundalini, hein, en Inde. Donc cette énergie est précieuse et il faut la sauvegarder. C'est ça l'idée. Et c'est comme le socle sur lequel ce corps énergétique va se construire. Plus on en a, bah plus vous avez du bois, plus vous pouvez le faire brûler et donc créer de la chaleur, de l'énergie. C'est ça l'idée. Donc on crée de l'énergie et cette vitalité aussi, qui passe dans le sang, mais beaucoup dans les méridiens, bah elle peut être perdue vraiment par les différents sens. Quand on regarde, on perd de l'énergie, quand on entend, quand on a encore plus une émotion, des pensées. Donc on arrive à un état intérieur où là on retrouve la philosophie taoïste qui se rapproche là du bouddhiste. Un état de non-agir, un état de détachement, c'est la fameuse voie du milieu, hein, du bouddhisme également. Un état où on va créer un équilibre entre le yin et le yang, donc entre toutes ces différentes humeurs, ces différents organes, et tout ça participe, va favoriser cette élévation spirituelle. Et au fur et à mesure, la conscience, avec ce corps énergétique, c'est comme une sorte de propulseur, hein. C'est un corps qui va permettre à l'esprit de pouvoir se propulser, aller dans les autres mondes. Et là, on voit l'idée d'élévation de conscience. Alors, c'est imagé, hein, quand on parlait des saints tout à l'heure, qui montent sur les oiseaux. Mais c'est l'idée que plus l'énergie va être subtile, plus l'esprit va pouvoir devenir subtil et s'élever. C'est vraiment le but de l'alchimie. Et au fur et à mesure, donc, le cerveau, le centre spirituel de la tête, est censé réabsorber les essences et la vitalité du corps, hein. Et même toutes les formes de conscience sont censées se réabsorber. Donc là, on trouve des liens avec la philosophie bouddhiste, hein, en quelque sorte, hein.
C'est un peu étonnant, cette alliance entre le bouddhisme et le taoïsme, alors en Chine, puisque lors de notre émission sur le bouddhisme, tu nous as expliqué que donc une grande recherche du bouddhisme, c'est de perdre ses désirs, de se détacher et d'atteindre une sorte de vide, en fait, une sorte de, nous on pourrait dire néant, je ne sais pas, et certainement pas chercher à être immortel.
Oui, ça c'est le point vraiment de grande divergence, et c'est ce que les bouddhistes, même chinois, convertis, ont reproché au taoïsme, une forme de matérialisme spirituel. Mais pour les taoïstes, cette immortalité réelle, donc pas artificielle, c'est le gage de l'illumination. C'est si vous y arrivez, c'est que vous êtes illuminé. Vous pouvez pas faire autrement. Vous avez transmuté tous les aspects, tous les différents composants de votre moi, de votre nature, terrestre, humaine.
Et selon le taoïste, alors qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes immortel? Comment se poursuit la vie?
Alors après, dans le taoïsme religieux, il y a des mondes merveilleux, différents niveaux comme ça que le sage peut vraiment aller voir, voyager. Il fait vraiment partie des immortels. Et certains veilleraient sur la Chine, on en cite, je crois, 8 très connus en Chine qui sont reliés d'ailleurs à l'ancienne philosophie du Yi Qing avec, je sais pas si tu connais ce symbole, ce cercle avec 8 trigrammes, et c'est les différents points cardinaux, hein. Et donc, il y en a. On rentre dans une forme de communauté des sages, des immortels. Je ne serais pas étonné que dans les campagnes, donc un petit peu dans les domaines retirés des villes, on pense encore qu'il y a des immortels, dans telle ou telle montagne. Il y a l'idée aussi, toujours en Chine, et ça dans toutes les traditions, que des grands êtres ont jadis, ils sont appelés les dragons de sagesse. Si les maîtres spirituels dont on avait parlé, nous, dans d'autres émissions, sont censés avoir transmis des enseignements sacrés, avoir transmis même la connaissance de l'acupuncture, des trigrammes, du Yi Qing, des différents arts, voilà, il y a toujours des dieux ou des divinités anciennes censées avoir transmis ces valeurs-là. Donc, il y a d'autres mondes, c'est ça l'idée, hein. Donc, c'est pas si matérialiste que ça. Le problème, c'est les illusions un petit peu qu'on peut développer, autant en Chine qu'en Occident, en considérant, en faisant une sorte d'amalgame avec un état de survitalité qu'on peut avoir et l'illumination spirituelle. Là, je pense que c'est le grand écueil.
Quelqu'un qui aurait des pratiques non justes ou déséquilibrées pourrait se survitaliser ou...
Oui, on peut, voilà, arriver vraiment à essayer de rechercher une forme de performance. Alors, sexuel, énergétique, physique, tout ce que vous voulez, mais une sorte de performance, une sorte de puissance liée au corps, mais sans réellement faire un travail psychologique interne profond, ce que les bouddhistes ont parfois aussi donc reproché aux taoïstes. Mais c'est vrai que les taoïstes vivaient plus longtemps aussi que les bouddhistes, hein, ça, je veux dire, ça, c'était vraiment
Ah, il y a une
connu.
réalité derrière,
Il y a
de longue durée de vie.
Oui, il y a vraiment une réalité. C'est pas étonnant qu'on ait dans tous ces peuples anciens, au Japon et puis ailleurs, en Chine aussi, des très grandes longévités, hein, de vie. Avant, en tout cas, qui s'occidentalisent dans leur mode de comportement alimentaire ou autre. Mais oui, il y a vraiment des cas assez connus. Donc, pour nous, il y a un danger de confondre les moyens avec le but. Il y a quand même aussi, faut le. Insister là-dessus, une alchimie psychologique qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée d'abandonner la peur, la colère, la tristesse, l'excitation, l'anxiété, etc. Hein. C'est des émotions qui sont aussi pernicieuses que de manger une viande avariée, je dirais. Hein. Voilà, donc ça, il faut replacer ça dans tout le contexte taoïste. C'est un système complet. On peut avoir aussi des formes de pratiques on en parlait, de vampirisme sexuel, où il y a des pratiques où un partenaire pratiquant ces arts taoïstes peut aller soutirer l'énergie vitale de l'autre. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communion. On est dans des formes de pratiques désaxées, là. Donc oui, il y a des risques, mais s'il y a vraiment un élément philosophique, au moins pour nous occidentaux, l'intérêt, c'est que ça a apporté cette ouverture au niveau du corps énergétique, c'est très important. Et qu'il y avait des méthodes vraiment de vitalité, et pas physique, mais vraiment des méthodes de vitalité respiratoire, énergétique, d'étirement, de concentration, de visualisation et autres, qui agissent sur ce corps énergétique. Et puis l'acupuncture, ça, il y a eu quand même des études qui ont démontré qu'il y avait vraiment une forme d'électromagnétisme, en tout cas, qui représentait ces courants-là. Donc on aurait tout intérêt à se pencher vers ce savoir millénaire, oui.
Tu vois, le grand apport un peu du taoïsme
Je pense que c'est ça, beaucoup, beaucoup.
un apport au niveau médical, quoi.
Oui. C'est vrai qu'en Inde, on a des systèmes métaphysiques beaucoup plus élaborés, c'est certain. Mais au niveau vraiment du corps énergétique, ils sont allés très loin. Vraiment, c'est leur
les
grande.
Chinois.
Oui. C'est leur grand apport. Donc il faut pas se dire qu'en faisant même 1 heure de Qigong par jour, alors je ne sais quoi, même en faisant cette méditation, qu'on va atteindre l'immortalité, l'illumination comme cela. Mais en tout cas, si c'est bien pratiqué, ça peut au moins apporter pas mal de santé et une certaine paix. Les gens disent ça, ceux qui pratiquent le Qigong ou le Tai Chi dans la concentration du mouvement, on trouve, et c'est ça le but quand même, c'est ce fameux wu-wei, là, cette expression chinoise, on trouve l'éternel présent, on trouve le non-mouvement, on trouve le non-temps. Un petit peu comme le trou noir hein, dans les galaxies où il n'y a plus d'espace, plus de temps. C'est ça, je dirais, pour moi, l'essentiel du taoïsme, plus que les pratiques dont on peut se perdre là-dedans. C'est beaucoup cité dans les textes taoïstes aussi, hein, et même bouddhistes, que beaucoup se sont perdus dans des pratiques plus ou moins imaginaires, ou se sont même parfois abîmé la santé. Hein. Mais par
Alors, on
contre...
n'a plus trop de temps pour les pratiques, mais peut-être peux-tu quand même illustrer un petit peu, donne-nous un petit peu des exemples de pratiques taoïstes.
Par exemple, dans les arts martiaux, il y a des pratiques qui allient énergétique, et je pense à des pratiques autour de la main de fer, par exemple, ou...
La main de fer.
C'est certains pratiquants qui, avec aussi de l'alchimie, puis aussi des pratiques énergétiques, rendaient leurs mains complètement insensibles à la douleur et vraiment très 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 très, très dures. C'était des redoutables combattants. Mais je sais qu'il y a les textes disent qu'il y a des dangers que ce soit mal pratiqué et beaucoup en sont morts, au niveau du cœur notamment. On parlait des risques au niveau des relations sexuelles, hein, de rechercher les conquêtes, de vampiriser les gens. Et on peut aussi contrôler quelqu'un, avoir un ascendant aussi au niveau de l'acupuncture, si c'est mal pratiqué, si on n'étudie pas assez. Et puis il y a surtout une recherche de puissance, ce qui est assez lié à l'esprit chinois quand même. Il y a quand même cette notion de puissance, de pouvoir qui est présent, c'est présent dans le domaine économique par exemple. Hein. Il y a une puissance économique de la Chine dont on parle beaucoup, mais on retrouve ça aussi, cette recherche de pouvoir. C'est un pouvoir quand même sur les éléments, sur soi, en quelque sorte sur la nature aussi.
Ben oui, chercher à être immortel, c'est
Ouais, c'est
chercher
pas
presque.
rien.
Oui.
C'est chercher à devenir un dieu. Et il y a aussi des développements de facultés qui sont évoqués, de maîtrise des animaux, des éléments, de la pluie, du feu, etc. Donc ça, il y a un environnement chamanique, en tout cas très ancien, qui se rattache au taoïsme.
Ok, ben écoute, David, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Peut-être as-tu un ouvrage à conseiller à nos auditeurs?
Alors, le Tao Te King bien sûr, de Lao Tse, il y a.
C'est compréhensible, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste.
C'est de la philosophie, il y a des phrases très belles. Par exemple, il y a cette phrase, celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas.
Ah
Donc,
oui, j'avais noté quelques phrases là,
vu.
en préparant cette émission. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche.
Voilà.
C'est très pratique pour
Oui,
finir,
c'est très
hein.
pratique,
C'est
oui.
pas mystique, hein. Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres, c'est un peu plus.
Voilà. Et je recommande encore toujours ce petit dictionnaire que je trouve bien fait. On en avait parlé dans l'émission sur le bouddhisme la fois précédente. Dictionnaire de la sagesse orientale aux éditions Robert Laffont, collection bouquins, bouddhisme, hindouisme, taoïsme, zen. Très bon bouquin sur tout ce qui est philosophie de l'Orient.
Voilà, bah je crois qu'on va arrêter là. On se retrouvera une autre fois pour continuer, je crois, notre cycle d'études de l'Orient.
Peut-être donner l'adresse e-mail si les gens veulent nous proposer des thèmes, s'ils ont des questions. L'adresse est sagesse au pluriel, @wanadoo.fr, sagesse au pluriel, @wanadoo.fr, si les gens veulent nous soumettre des thèmes ou si vous avez des questions. Voilà, merci Olivier Danès
Merci David Gaulois.
et à bientôt à tous.
À bientôt.